jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot Nicolas Villas.
Soyez les bienvenus dans l'after, nous sommes ensemble jusqu'à minuit. On vous attend au 32-16, on vous attend sur le hashtag RMC Live bien entendu, sur l'application Direct Studio. Marseille vient de s'imposer 3-2 à Monaco. C'était la dernière affiche de la quatrième journée de Ligue 1. Cet après-midi, on vous rappelle que Rennes a battu Bordeaux 2-0, qui n'a pas eu de but entre Saint-Etienne et Amiens. Voici le sommaire d'ailleurs de cet after. Ce soir, nous reviendrons bien entendu sur la victoire de l'AS... Non, c'était pas l'AS Monaco, c'est con, j'avais bien commencé. Ouais, de Marseille face à l'ASM. Ouais, c'est con. Hein. On aura les infos du jour, bien entendu, et tout ce qui va avec. Daniel Riolo est avec nous ce soir. Salut Daniel.
Salut les amis.
Ça va? Tu as régalé ou pas?
Ouais, c'était pas mal. Ouais. Donc,
le scénar était sympa.
Les
quoi.
Buts, voilà, ont fait que le match est devenu de qualité, malgré de nombreuses erreurs techniques dans ce match. Mais au final, le scénario rend la partie intéressante.
Ouais, non, t'es pas d'accord?
C'est un Daniel Frey de début de saison. Le même match à la fin, dans 6 mois, ou dans 7 mois.
Le scénario est bon, quoi. C'est intéressant à suivre.
Pour une fois, tu vois, c'est moi qui ai trouvé ça peut-être un peu plus...
Tiens, je vous donne quelques résultats étrangers avant de passer aux 3 points, à vos 3 points, les gars. En Angleterre, Arsenal a battu Cardiff dans la douleur, hein, là aussi. Victoire 3-2 des Gunners face aux Bluebirds. Victoire de Manchester United 2-0 face à Burnley avec un doublé de Lukaku. Watford a battu Tottenham 2-1. Watford, 4 victoires en 4 journées, hein, en Angleterre. En Espagne, 2-2 entre Levante et Valence. Le Barça a pulvérisé Huesca 8-2 avec notamment un doublé de Messi, un doublé de Suarez, un but de Dembélé. Le Betis a remporté son derby 1-0 face à Séville. But de Joaquin, la légende du Betis. Le Schalke 04 a perdu en Allemagne 2-0 face au Hertha. En Italie, le Napoli de Carlo Ancelotti s'est incliné 3-0 à Gênes face à la Samp. Et un petit résultat également en Écosse, il y avait le Old Firm. Le Celtic a battu les Rangers 1-0 avec un but d'un Français, Olivier Ncham. On commence par le plus important, et le plus important c'est les 3 points bien sûr.
L'important c'est l'essentiel.
Le plus important c'est les 3 points.
Et souvent l'essentiel c'est le plus important.
Daniel, quels sont tes 3 points ce soir? Alors j'imagine que ça a parlé pas mal de Ligue 1, de ce match notamment.
Que
le Marseille-Monaco, le Monaco-Monaco.
Ouais,
Monaco
de ce match, qui était le match phare de cette J4. Le premier point, c'est l'OM qui, pour moi, a fait le match. Le bien et le pas bien de ce match, c'est venu de Marseille. Mon deuxième point sur Monaco, qui pose trop de questions. Jardim, ok, le magicien qui arrive toujours à bricoler, à remettre des équipes sur pied, mais je me demande si à un moment, il n'y a pas une limite au talent d'un coach. C'est tout simplement la qualité des joueurs, la jeunesse de certains. J'ai peur que cette année ce soit quand même un petit peu plus compliqué que celle d'avant. Et puis le troisième point, c'est sur le nouveau joueur, parce que je trouve que c'est une énorme recrue pour l'OM, c'est Strootman, donc j'aimerais en parler, savoir comment il va jouer au milieu, est-ce que Gustavo va être derrière ou pas. Voilà, c'est mon troisième point.
Pierre Ducrot, quels sont tes 3 points? T'as vu, il y a un coup de sifflet et tout.
Ouais, hein, aucun problème, je vais rentrer
Il était déjà en train de me pourrir, Jérôme Thomas.
En même temps, là, vous m'avez bouffé 10 secondes déjà, non?
Non, c'est parti.
Ok, premier point, le petit match. Moi, j'ai trouvé qu'effectivement, les déchets techniques l'avaient emporté sur le reste. Alors, heureusement, il y a des buts, il y a un scénario qui nous emballe un peu plus. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était pas un vrai bon match de Ligue 1 entre Marseille et Monaco. Deuxième point, j'ai mis heureusement Thauvin, parce que quand il rentre, il dynamise tout et il fait en plus la différence, il est efficace. Et puis troisième point, j'ai mis la défense de l'OM quand même, que j'ai trouvé alors très faible. Alors pas spécialement les erreurs individuelles de Rami, même si ça en fait partie, mais également collectivement, j'ai trouvé que c'était à ma vie à gauche a pas été terrible. Dans l'axe, j'ai trouvé très très laxiste aussi. Alors bon voilà, j'ai pas aimé la défense de l'OM.
Je vous donne mes 3 points également. Bah moi ça rejoint un peu ce que vous avez dit tous les deux, mais moi je vais pas dire que j'ai peur pour Monaco, mais un peu comme toi, je me demande jusqu'où Jardim va pouvoir aller à force qu'on lui enlève ses bonbons. Bah je sais pas s'il va pouvoir en refaire d'autres, Leonardo Jardim. J'ai peur que ce soit un peu dur cette saison pour Monaco, même si c'est que le début et que jusqu'ici il avait été là. La faiblesse défensive de l'OM, on pourrait dire Monaco aussi, mais comme toi, oui. C'est pas que Rami, c'est globalement il tâte, il essaie de trouver la bonne formule, Garcia il y arrive pas. Et dernier point, bah c'est Garcia, c'est juste une stat, mais c'est sa première victoire depuis qu'il est entraîneur de l'OM. Face à une équipe, un gros, c'est-à-dire Lyon, Paris ou Monaco justement.
La question, c'est
une victoire 3-0, 8 défaites.
Si Monaco est encore un gros de ce championnat, eu égard à ce que t'as dit, à ce
exactement.
Que j'ai dit.
Il manquait du monde aussi un peu quand même côté monégasque. Donc il va falloir.
De Monaco, c'est la question de se demander s'il faut encore partie de ce gratin-là, parce que quand tu regardes la compo de près, il y a des joueurs qui sont indéniablement des joueurs de qualité, mais bon, pour arriver à Monaco, être immédiatement performant, je pense à Oulu, à Ibn Acer, Grand Cyr, Et là, je cite ceux qui sont.
C'est la même question depuis trois ans quasiment.
Il fait un bon. Ouais, mais là, on est quand même allé chercher des mecs qui étaient dans des petits clubs. Donc le temps qu'ils grandissent, s'ils grandissent, parce que.
Ouais, t'as toujours cet inconnu.
Mais ce sont des mecs de qualité. Mais bon, Heinrich. Qui jouait pas dans le club dans lequel il était. Barreca, c'est un jeune joueur, lui c'est différent. Il a fait un petit peu toutes ses classes dans les sélections italiennes.
Grand-Cyr, j'ai des doutes. Sur le niveau de ce joueur.
Ça fait une équipe. Ça fait une équipe qui est pas impressionnante.
Non, pour l'instant.
Et
Barreca
joue peu l'année dernière à Autoroi.
Il fait
une dizaine de matchs.
Mais est-ce que c'est pas exactement.
J'avais vu un peu plus.
Est-ce que c'est pas exactement les mêmes questions qu'on se pose quasiment à chaque fois au début de saison?
Ouais, mais t'as pas l'impression que c'est plus faible que les autres années quand même?
Ouais, même s'il manque du monde ce soir. J'ai souvent la sensation qu'on a un peu cette impression. Ouais, il repart avec plus faible. Mais à la fin.
Avec Fabinho, avec Moutinho. Ouais. Enfin, c'est pas du tout la même histoire. Les cadres, les tauliers, il y en a encore, tu vois, l'année dernière.
Ouais, sauf qu'on dit que le cadre Fabinho, il va louper sa saison parce qu'il y a eu ce départ loupé, okay, machin, etc. Tu vois, il y a toujours des incertitudes, quoi.
Quand il a fallu resserrer les boulons, ils sont là, ils ont fait malgré tout en championnat une bonne saison.
Ah, ouais,
là,
je trouve que ça va être
un petit peu plus compliqué.
Voilà. S'il le fait encore cette saison, Jardim, en tout cas. Enfin, c'est assez extraordinaire. Là, je te rejoins. Mais le problème, c'est que ça leur donne, enfin, ça donne raison aux dirigeants, quoi, de continuer.
Une parenthèse sur la critique que tu émets par rapport à la qualité du match. Je note que c'est quand même assez étonnant parce qu'en fait, le déchet technique, le petit match et tout. En fait, quand tu es impliqué, quand tu regardes le match comme un supporter, machin, là, tu t'en fous complètement, en fait.
Non.
La qualité du match. Tu dis, l'important, c'est la victoire, l'important, c'est de gagner.
Non, pas du tout.
Le déchet technique, c'est pas grave. Le fait que tu marques des buts qui sont des faux buts, parce que les monnaies.
Oui,
pourquoi tu dis ça, là?
Ça vient des erreurs.
Mais par rapport à, en fait, c'est parce que je note, en fait, que c'est toujours pareil. Si t'es impliqué, c'est comme quand tu parles.
Oui, mais t'es parce que t'es pas objectif. Ouais,
mais c'est voilà. En fait, la qualité globale, on s'en cacque. Par exemple, quand moi, on
pas toujours. Il y a des supporters qui nous appellent souvent et qui nous disent, ouais, on l'a gagné, mais bon, on s'est fait chier.
À la mi-temps, on en a eu un. Ouais. Non, moi, Daniel, c'est toujours ce que je t'ai dit.
Toujours, parce que je suis quand même pas tout seul avec cette idée-là.
Non, mais moi, c'est toujours ce que je t'ai dit.
Ou à d'autres consultants qui, quand c'est une équipe, par exemple en Coupe d'Europe ou l'équipe de France, qu'ils soutiennent consciemment ou inconsciemment, l'important c'est juste de gagner. Peu importe que t'aies été bon, que t'aies eu des déchets techniques, que t'aies machin. Mais quand t'es neutre face à un match, comme là t'es neutre, Monaco-Marseille t'es neutre, tu regardes, là d'un coup t'as un œil qui est juste. Pour le coup, je te le dis même, tu as un œil qui est juste. C'est que oui, il y a du déchet technique. Oui, au-delà des buts, les buts ne font pas tout. Tu notes la qualité d'ensemble du match. Donc,
alors vas-y, il va très bon.
Je trouve que là il y a un problème dans l'analyse. Je saurai mon souvenir quand on regardera l'image de l'équipe de France.
Soit il y a méprise, soit tu me confonds peut-être avec d'autres consultants ou tu mets peut-être un petit peu dans le même panier. Mais je t'ai jamais dit que moi en tant que consultant, que ce soit l'équipe de France, l'OM, le PSG, tiens, puisque j'ai joué au PSG, je vais le mettre dedans. J'ai toujours la même analyse. Par contre, tout ce que je t'ai dit à chaque fois, c'est que quand tu es acteur et pas partisan, acteur, c'est-à-dire joueur, entraîneur, là tu peux réagir différemment. C'est toujours le discours que je t'ai tenu. Que quand tu es acteur, tu peux avoir une approche différente de l'importance du résultat et du contenu.
Pour me faire l'avocat des mecs qui pensent comme ça justement, la différence, c'est que là, pour l'instant, Marseille, ils ont gagné un match, ils n'ont pas gagné le championnat. Tu vois ce que je veux dire? À la limite, si à la fin de la saison, les Marseillais vont au bout.
Non, mais là, en l'occurrence, on parlait pas du jeu de l'OM.
Alors globalement.
Oui, non, c'était plus globalement sur le match.
Il parlait de la qualité d'ensemble.
Oui, quand il parle de la qualité d'ensemble, là, aujourd'hui, si les Marseillais n'ont pas fait un énorme match, ils sont champions. Si Marseille.
Ils font un match, en tout cas, meilleur que celui de Monaco. En tout cas, d'un côté, t'as une équipe de Marseille qui,
mais ce que je veux dire, c'est que ce raisonnement, il est valable. Ce raisonnement est valable si tu remportes un titre, c'est ça que je veux te dire. C'est si tu vas au bout, quoi.
Ce que je me tue à dire.
Oui, c'est souvent ce
je suis d'accord.
Sans être impliqué, t'as une analyse qui est un petit peu plus correcte. Et le problème, c'est que toujours tu parles à des gens, et c'est peut-être également un de mes défauts, c'est d'oublier que le match est regardé par des gens qui sont impliqués d'un point de vue émotif. Mais au-delà de ce défaut-là, moi je continuerai à avoir un œil objectif parce que mon métier, c'est de regarder clairement les choses. Donc voilà. Passons à l'analyse du match et au bon match de l'OM qui mérite sa victoire.
On va accueillir, Adam justement pour en parler, qui est supporter de l'OM. Salut Adam, bienvenue dans l'After.
Salut Nico, salut à tous, salut After.
Salut Adam.
Alors Adam, comment tu l'as trouvé ce match, toi, supporter de l'OM aussi? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que tu trouves qu'il y a quand même eu des problèmes dans cette équipe de Marseille? Qu'est-ce que t'en retiens de cette victoire de l'OM 3-2 face à Monaco ce soir?
Bon, des problèmes, c'est indéniable. Quand on voit ce que nous a sorti comme match à Adil Rami, c'est assez catastrophique. Mais bon, au final, on ressort heureux quand même, rassuré. Parce que bon, à 2-1, on était franchement pas bien. On se disait, voilà, la malédiction des grands matchs, tout ça. Au final, on s'en sort bien, grosse ancrée de Thauvin. Comme disait Daniel tout à l'heure, c'est Marseille qui a fait tout le match au final, que ce soit des bons ou des mauvais côtés. grosse première mi-temps, voilà, même Mitroglou a été assez exceptionnel. Je crois que c'est la première fois dans un match de Ligue 1 où il touche plus de 30 ballons. Et donc voilà, au final on sort assez content. Strootman, t'as l'impression que ça fait déjà 6 mois qu'il est dans l'équipe, même si c'est pas un match fantastique, le mec il est intégré dans le milieu, il a fait son match quoi, tranquille.
Et à mon avis Adam, là comme on l'a vu ce soir,
il était très sombre.
Moi, il m'a plu, je pense qu'il n'en est qu'à ses débuts.
Voilà, c'est ça qui est rassurant.
Je pense que si l'OM joue mieux, il n'y a pas de raison qu'il monte pas en puissance tout au long de l'année, Strootman sera bien meilleur qu'on l'a vu ce soir.
Et surtout à côté d'un Gustavo aussi.
Ça c'est la grande question et c'était mon troisième point. On peut s'arrêter là-dessus deux secondes. C'est que qu'est-ce que va être l'intention de Rudy Garcia par rapport à ça?
Est-ce qu'il a le choix surtout?
Est-ce qu'il a le choix? Il y a
Salih
Takkar qui est venu pour jouer là, qui paraît-il pour l'instant n'est pas convaincant à l'entraînement.
Il n'était pas en condition, on l'a vu, hein, physiquement face à Nîmes.
Ok. Il y a également solution Camara.
Oui.
Qui est normalement le petit jeune qui monte et qu'on devrait
qui pourrait prendre de la place
parce que je pense qu'il a des qualités.
Ouais. Qui est finalement celui qui a le moins joué depuis le début de la saison dans les défenseurs centraux. D'ailleurs, on en avait parlé pendant le match. Rudy Garcia, il tâtonne. Alors concernant Gustavo, parce qu'il tâtonne en défense centrale, en 4 matchs, il a aligné 4 charnières différentes. Hein.
Oui, c'est un petit peu dommage. Ouais. Moi, je pense toujours que c'est dommage. La 4e journée, certes, ça n'est vraiment que le début, mais ce serait bien qu'on tâtonne pas trop.
C'est important quand même. Ouais.
Ah, puis c'est surtout que Gustavo est bon derrière, mais tu perds quand même Gustavo au milieu à chaque fois. Quoi.
Alors après, est-ce que les deux l'un à côté de l'autre vont être complémentaires? Deux gauchers.
T'as peur qu'ils se marchent dessus, toi?
Non, pas ça.
Je suis pas inquiet dessus parce qu'ils sont intelligents. Ils sont intelligents les deux.
Voilà, moi j'ai envie de voir. Si t'as deux mecs comme ça, Strootman il vient d'arriver. Comme dit Adam, on a l'impression qu'il est là depuis longtemps. Le mec il doit avoir quoi, 2-3 séances d'entraînement avec les mecs là. Tu vois quand même que c'est un mec au-dessus.
Là où tu vois qu'il est intelligent aujourd'hui, c'est qu'il reste sobre et il fait juste ce qu'il a à faire parce qu'il sait peut-être qu'il ne doit pas faire plus aujourd'hui. Il est très sobre dans son match.
Il fait quand même partie de ses joueurs où quand il fait deux pas, t'as l'impression que c'est 10 pas d'un autre joueur. T'as l'impression qu'il est, j'aime pas l'expression passer les lignes parce que c'est, comment dire,
anticipateur.
Il est entraînant. Ouais. Il est entraînant sur le terrain. Il va de l'avant, quoi. C'est un milieu de terrain qui va dans le sens du jeu, qui stagne pas, qui regarde pas derrière lui. Il va de l'avant. J'ai vraiment envie de le voir avec Luis Gustavo. Je veux voir ce que cette doublette peut donner parce que, en plus, Morgan Sanson, s'il avait une opportunité dans ce début de saison de se montrer et ce soir à côté de Strootman, d'éventuellement dire à Rudy Garcia, écoute,
tu peux peut-être
me laisser là et mettre Luis Gustavo derrière si t'es pas sûr du croate que t'as acheté et si Camara tu le trouves jeune. Mais Morgan Sanson, là.
Tiens, Pierre, toi qui as joué au poste,
moi qui l'ai souvent défendu, là,
qu'est-ce
je suis un peu
penses
décevant.
Bah,
de qui? De Strootman ou Sanson?
Bah, les deux d'ailleurs, les trois même.
Strootman, comme on vient de le dire, moi je pense que, enfin, déjà je sais que c'est un joueur très intelligent et effectivement qui a une influence à chaque fois qu'il joue dans un milieu de terrain. Faut pas, on en a parlé un peu pendant le match, faudra pas s'attendre à un Strootman qui sera décisif, qui sera
Garcia a été clair, il a bien décrit
la dernière passe, qui sera dans la frappe, etc. Bien qu'il peut le faire de temps en temps, mais c'est pas son atout principal, c'est que c'est un mec qui t'équilibre complètement un milieu de terrain. De par son activité, de par son placement, son intelligence, etc. Et effectivement, après, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que Gustavo et Strootman vont être complémentaires? Mais vu la capacité intellectuelle des deux garçons, enfin l'intelligence en tout cas de placement et de jeu dans un milieu de terrain des deux garçons, je suis pas forcément inquiet là-dessus. Et excuse-moi, j'ai pas entendu.
Adam, vas-y.
Non, je disais, je suis complètement d'accord avec Pierre. Vu l'intelligence des deux, je pense que ça peut que être mieux que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Parce que c'est vrai que Sanson, c'est pas top. Après, même si Sanson fait pas un grand match, je pense que Strootman, c'est un peu comme Gustavo. C'est le genre de mec qui va bonifier son coéquipier au milieu de terrain. C'était comme Zambo l'année dernière, quoi. Quand il était à côté de Gustavo, le mec arrivait à faire de bons matchs, quoi. Et donc là, je me dis que si tu mets un Lopez au milieu de terrain, même un Camara, tu vois, je me dis que ça peut faire l'affaire à côté d'un Strootman.
Donc, le problème va être de savoir quelle charnière tu vas utiliser, comment tu vas jouer, et on en revient à ce qui s'est passé ce soir. C'est qu'on voit que Rami n'est pas prêt.
Ouais.
Combien de temps il va mettre à être prêt? Parce que là, ce soir, clairement, on peut dire les deux buts, 1,75.
Ouais, non, le deuxième.
Ah, le deuxième.
On en parlait.
C'est pas une intervention.
À la base, l'alignement est pas bon.
Elle est pas facile à faire, mais c'est le genre d'intervention que tu dois faire quand t'es défenseur.
Oui, mais à la base, l'action, c'est pas lui. C'est pas lui qui court.
Oui, après ça, c'est toujours des erreurs. C'est toujours amené par des erreurs, une situation comme ça.
On va être d'accord pour dire qu'il est pas prêt.
Oui.
En tout cas, maintenant, il est meilleur passeur de Ligue 1. C'est toujours ça, quoi.
Bon.
Oh non.
Bon, en tout cas, il est pas au point. il n'y a pas de raison qu'il ne revienne pas et ne refasse pas la saison qu'il a fait l'année dernière.
Il a
fait une très belle
saison. Il était très important pour l'OM.
Donc, en attendant, l'OM, parce que l'OM ne peut pas gaspiller des points, et ce soir, mine de rien, il passe près d'en gaspiller des points, hein, parce que ce match, ils doivent le gagner. Ils le gagnent au final, mais à un moment où tout le monde, on a dû se dire, ils vont peut-être même le perdre.
Ah, les 25 000 premières minutes de la seconde période.
Monaco arrête un peu de pousser quand ils mènent 2-1. Je trouve que d'ailleurs, c'est un peu une erreur. Ils n'ont pas trop su comment gérer à ce moment-là. Mais ils auraient pu placer un ou deux contre. Enfin bref, je pense qu'ils ont complètement raté leur fin de rencontre. Donc, Rudy Garcia, là, il est dans la mission de savoir comment il construit le milieu, mais aussi sa charnière centrale, quoi. Où on est, Chaletatsar. Est-ce qu'il peut jouer avec Camara? Est-ce que ça suffit l'un de ces deux-là si Rami n'est pas encore au top et donc il lui met Luis Gustavo pour le solidifier un peu?
Moi, je pense que
on est dans un début de saison où forcément, ben, ça bricole, ça cherche.
Son milieu, il l'a. Moi, je pense. Au top. Son milieu, il l'a. En tout cas, il a ses hommes forts au milieu. Après, c'est le problème derrière et le décalage que lui crée Gustavo en le mettant derrière, qui le met dans pour son milieu pour l'instant.
On remercie Adam en tout cas qui nous a appelé. Merci Adam.
Allez, merci,
l'after. Bonne soirée, à bientôt, Adam. On va accueillir Alexandre, qui lui est supporter de Monaco. Salut, Alexandre.
Salut à tous, bonsoir.
Bienvenue, Alexandre. Dans l'after, Alexandre. Je crois que t'es un peu inquiet, toi, ce soir, Alexandre. Alors, c'est vrai que ça fait quand même 3 matchs d'affilée sans victoire pour Monaco. Il y avait eu un 0-0 contre Lille, il y a eu la défaite à Bordeaux. Et maintenant, il y a cette défaite à domicile face à Marseille. Qu'est-ce qui t'inquiète, toi, justement, pour les côté monégasque?
Non mais moi ça date pas de ce soir. Hein. De toute façon quand on voit le 11 monégasque ce soir, il est quand même très moyen. Enfin moi je suis de ceux qui pensent que dans le football le milieu de terrain est très important. Moi je pense.
Ah mais alors ça Alexandre, tu peux pas savoir comme je suis content de te l'entendre dire, parce que ces derniers temps, moi j'ai l'impression que je sais pas pourquoi ce secteur de jeu, il est inutile de prouver à quel point dans l'histoire du foot, même récente, c'est un secteur essentiel. Mais j'ai l'impression, là, il y a une sorte de courant. On parle plus de cette zone-là. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu ce qui s'est passé à Lyon dans le mercato. C'est pas une zone de jeu qu'on a réellement solidifiée. On s'est un petit peu braqué sur qui va jouer devant, comment on va jouer devant.
Il y a derrière, il y a limite devant, quoi.
Dembélé va venir pour épauler les trois autres. Hein. Bref, et surtout, au-delà de Lyon, le PSG.
Lyon, je te réponds, c'est pas vrai, Daniel, puisque quand il a fait la conférence de presse de présentation de Dembélé, Jean-Michel Aulas, il a bien expliqué que parmi les deux mondialistes qu'il visait, il y avait Rubén Díaz, le défenseur central, et Héctor Herrera, qui est un milieu de terrain, le mexicain du FC Porto. C'est les deux joueurs qu'il a essayé de faire venir.
Il est venu, quoi.
Non, mais c'est pour te dire.
Ils ont essayé, mais ils ont pas réussi.
Le milieu de terrain n'a pas été la priorité.
Bah ça j'en sais rien, mais en tout cas,
En tout cas, il démarre avec les mêmes que l'année dernière. Alors oui, on va me dire, mais il y en a, comment il s'appelle, celui qui jouait pas beaucoup, qui va jouer ça, Diop, qui va peut-être.
Oui, il y a pas une renfort, ça que tu veux dire, bon, dans les faits.
Voilà. Okay. Non mais le mec d'expérience.
Enfin, on n'a pas priorisé là-dessus.
C'était une zone de jeu où on plaçait, un homme d'expérience. Ce qu'a fait l'OM avec Luis Gustavo l'année dernière, et ce qu'ils refont cette année avec Strootman, ils vont avoir une zone de jeu quand même où ils peuvent dégager de l'assurance. Ce que le PSG n'a absolument pas fait, tu vois. Bon, on en parlera certainement demain soir.
Il ne fait pas depuis 3 ans. Hein.
Voilà.
C'est le problème.
Je trouve que c'est assez dingue. Donc Alexandre, tu fais bien de dire que c'est une zone intéressante et tu peux continuer. Excuse-moi de t'avoir coupé longuement.
Il n'y a pas de souci. Non, mais c'est vrai qu'au final, quand on recrute, quand on fait jouer ce soir à Ed Binater, on voit que Jardim ne sait toujours pas placer Tielemans. Il arrive toujours pas à le placer. Alors, il était intéressant.
Oui, parce que c'est certainement pas un numéro 10 derrière une pointe. Hein.
Non, sûrement pas. Et quand on voit notre terrain, ça fait très peur. Ça fait très très peur. Moi, Jean-Louis Daou, j'ai rien contre lui, mais il a rien à faire avec Monaco, quoi. C'est pas un club pour lui. Quand je vois Aïd Bennacer, c'est pareil. C'est des bons gars de milieu de tableau de Ligue 1, mais ça n'a rien à faire dans un club comme Monaco.
Moi, j'ai pensé exactement la même chose que toi en première période.
Moi, ce qui m'a surpris, c'est le placement d'Aoudou, qui était plus haut que Bennacer et Tielemans. Il était en permanence en première période, quasiment lui en position de numéro 10, avec derrière lui Bennacer et Tielemans.
Il y en a un qui sera important dans ce secteur de jeu qui était absent ce soir, c'est Golovin.
Oui, bien sûr, c'est vrai.
Golovin, c'est pas vraiment. Je vois ce que veut dire Alexandre. C'est les travailleurs du milieu et ceux qui
t'assure un équilibre et qui t'assure.
Voilà, Golovin, ça va être la fantaisie, le joueur.
Une certaine sérénité de.
Qui est à côté de Falcao. Est-ce que
c'est quand même plus bas, Golovin.
Non mais c'est, les milieux dont parle Daniel, c'est des milieux un peu patrons.
C'est moins besogneux que qu'un Fabinho,
pas spécialement besogneux,
mais...
pas spécialement besogneux,
non, mais travailleur,
mais aussi ouais travailleur, mais surtout patron, un petit peu organisateur.
C'était la zone.
C'est plus fantaisiste, ok, plus créatif.
C'est zone Fabinho. Quoi.
D'accord.
Alors, okay. L'homme qui dans cette zone-là doit faire le ménage. Golovin, c'est quand même un petit peu plus. C'est plus.
Mais ton parallèle avec le PSG était parlant puisque c'est l'homme qui manque au PSG depuis 3 ans. Un milieu de terrain comme ça défensif patron organise pas organisateur dans le sens avec le ballon forcément mais qui t'organise ton milieu de terrain.
Tiens Alexandre, comment tu la sens la Ligue des Champions pour Monaco cette saison, parce que c'est vrai qu'on sort d'une saison qui avait été finalement très
compliqué.
Décevante pour Monaco à ce niveau-là. Voilà, quatrième.
Pour moi ça va être pire. Hein. On a encore affaibli l'équipe, on ne s'est pas renforcé au milieu de terrain.
Pire, en fait, il n'y a pas de cinquième place en poule.
Mais d'ailleurs, vous avez entendu ce qu'a dit Vadim Vassiliev après le tirage au sort.
Ouais, mieux.
Il a dit faut faire mieux. Alors on a essayé de le cuisiner, c'est quoi? C'est faut passer? Non, il a dit faut faire mieux. Bah non, mais mieux, ça veut peut-être dire quatrième avec plus de points aussi. Hein.
Ou troisième.
Ouais, ouais. Ou troisième, ouais.
Je comprends ce que dit Alexandre à Oulu. On n'a rien contre ces joueurs-là. J'ai rien, je veux même pas, tu vois, pas leur taper dessus ce soir. En plus, avec Bennacer, pas à dire qu'il ait fait un mauvais match.
Au mieux, il va te falloir pas mal de temps pour que ça passe des caps.
Exactement, voilà.
Et au pire, ça en passera pas.
Ça veut dire que t'as pris des mecs, en fait, pour les faire progresser, pour qui, bon, là, clairement, voilà, faut pas se mentir, c'est, tu les prends, ils sont en vitrine, et tu veux les vendre. Tu les prends, tu veux les mettre en vitrine.
Ouais, mais c'est
C'est quand même des mecs qui étaient à Strasbourg quand, 3 pour ce qui est de Grand Cyr. On en revient à l'arrière droit qui était pas titulaire à Leverkusen, à Barreca qui est un jeune joueur
qui était pas titulaire au Toro.
Ouais, qui aurait pu l'être parce que bon, il a fait toutes les sélections en Italie, il était avec les espoirs en titulaire mais on est clairement dans j'espère qu'il va être bon et on va le vendre.
Mmh.
Il est là pour ça.
Après moi j'insiste sur le fait que on a vu Jardim faire souvent des miracles avec alors peut-être pas ce genre de joueur. Je sais pas s'il
partait avec des joueurs aussi peu habitués.
Peut-être la différence, vous avez raison.
Avec les gars de 2 ans
de faire la même chose
de l'année dernière, il faut voir.
Moi je te dis que parce que je le sais, il y a une certaine inquiétude quand même de la part de Leonardo Jardim cette saison. Il n'a pas été hyper satisfait par le mercato. Il a vu Moutinho et Fabinho se barrer au même mercato, ce qui n'était pas forcément ce qu'il espérait. On rappelle quand même, hein, c'est assez important, c'est vraiment les deux joueurs qu'il a le plus entraîné dans sa carrière. Lemar est parti. Bon, Baldé, ça a pas bien pris, c'est une autre histoire. Et ils ont pris beaucoup de millions. Il y a eu ces investissements, mais qui sont faits très tardivement. C'est pour ça qu'aussi, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Pierre. On fait souvent cette réflexion chaque année. Et là, le mercato s'est fait plus tard. Peut-être que ça prendra, mais encore plus tard.
D'ailleurs, quand tu parles des inquiétudes de Jardim, je me rappelle l'année dernière, à peu près au même moment, il avait les mêmes inquiétudes.
D'ailleurs, il a dit en conf. Hein.
Ben oui, il avait à peu près les mêmes inquiétudes.
Non, mais s'il y arrive encore cette année,
ce sera beau.
Qu'à un moment, il va avoir une limite à ça, parce que derrière, t'as d'autres clubs qui sont un peu déjà l'OM a beaucoup bousculé le trio de tête l'année dernière et il a quand même failli être sur le podium. Cette année, a priori, ils devraient quand même progresser. Ils se sont un peu renforcés, donc ils vont venir encore être plus près de Monaco et preuve en est, ils les battent ce soir chez eux, chose que Marseille ne faisait pas les dernières années. Donc comment Monaco
la dernière victoire à Louis II, c'était en 2010.
Voilà. Arriver sur le podium pour Monaco cette année,
c'est peut-être ce qu'il va falloir.
On est obligé d'anticiper une rétrogradation de Monaco
Ce sera peut-être ce qu'il faudra aux dirigeants monégasques pour changer un petit peu de politique ou en tout cas ne pas la pratiquer.
Moi j'y crois pas.
Non mais peut-être pour ne pas la pratiquer avec
ce qu'ils veulent, autant de sont là pour faire du trading.
Il peut pas avoir d'autres politiques à Monaco, ça marche.
Peut-être un petit peu moins.
Le business, il est béton armé, t'as vu comment ça marche?
Oui, mais ça marche.
Il est béton armé parce qu'ils sont en Ligue des Champions.
Parce que t'as des résultats et parce que les joueurs arrivent à être mis en
valeur. Sondage sur le compte Twitter de l'After, ça rebondit un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, Daniel. Question qui vous est posée, cet AS Monaco-là fait-il encore partie du top 3 de la Ligue 1? Tu dirais quoi, toi, Alexandre?
Oui ou non? Bien sûr que non.
Bah, vous êtes 75% à répondre comme toi. Non. Voilà.
Mais non, c'est impossible. Pas avec cette équipe-là, pas avec cet effectif. Alors c'est très bien. On a recruté les meilleurs jeunes d'Europe. C'est très bien. Mais notre 11, c'est dur ce que je vais dire. Mais il est vraiment pas.
Essayons de voir qui manque parce que l'effectif est tellement large. Essayons d'envisager quelque chose de très positif pour Monaco. Alors explosion du jeune italien en joker qui te fait gagner quelques matchs. Golovin, il devrait revenir quand Golovin là maintenant?
Dans 2 semaines.
Voilà, donc Golovin qui prend une place au milieu, Sidibé qui revient Alors à droite, donc Henrich ne joue plus.
Oui, c'est
ça. Enfin bon, tu ne gagnes pas les matchs avec un arrière latéral.
Non, ce qui nous manque, c'est une vraie sentinelle. Pour moi, c'est un vrai milieu défensif qui voilà, qui ramène les ballons aujourd'hui.
Tielemans va dans ce milieu-là. Tielemans va peut-être reculer à côté d'un des deux qui est titulaire ce soir. C'est son rôle. Golovin prendre la place que lui avait ce soir. Après, tu changes l'arrière droit, tu mets Sidibé. Qui te manque encore ce soir?
Une vraie sentinelle qui récupère des ballons, qui fait, ouais, qui fait ce que Jean-Louis Daou n'arrive pas à faire.
Mais ça, vous l'avez pas dans l'effectif.
Tout simplement. Et ça, malheureusement, on ne l'a pas.
Et pourquoi? Tielemans, c'est avec Benacer ensemble, ça peut pas être bien.
Tielemans, c'est pas vraiment
Tielemans, c'est plus un relayeur un peu plus haut, normalement.
Arrêtons de mythifier le rôle de la sentinelle dans notre Ligue 1. C'est vrai, il y a beaucoup de clubs qui jouent très bien sans avoir le grand gaillard costaud devant la défense.
Non, mais c'est pas forcément d'être un gaillard, c'est que c'est pas vraiment comme là on l'a vu de loin.
Je pense que Tielemans, il peut jouer dans un milieu à deux, dans un 4-2-3-1, il joue devant la défense avec un autre mec à côté.
Et Daniel, si je peux me permettre, ça dépend aussi de la défense centrale que t'as derrière. Ça c'est et c'est voilà.
Quoi, t'es pas convaincu par
l'association de pas avoir, comme le dit, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom.
C'est Alexandre. Alex. Bravo, vive le respect.
Ouais, non, c'est pas du manque de respect, c'est une petite mémoire. Excuse-moi, Alex, mais comme le dit Alex, le fait de pas avoir une vraie sentinelle et derrière d'avoir Jamerson, Glick qui sont pas, on l'a vu ce soir, au niveau de l'alignement, etc. Alors, ça va peut-être se régler un petit peu, mais ils se connaissent quand même bien, les deux.
Ça a jamais été une
sentinelle. Bah voilà, c'est un peu ma peur aussi, quand même.
Ils ont fait il y a deux ans, quand ils font leur magnifique saison et tout, c'est le bloc à quatre. Qui sont Jamerson, Glick, Bakayoko et Fabinho. C'est pour ça, extraordinaire et qui leur facilite aussi
exactement.
Le travail.
Les équipes dont tu parles avec des milieux relayeurs qui peuvent faire un peu les deux rôles, c'est parce que derrière eux c'est très costaud et que voilà.
Ouais. Merci de nous avoir appelé, Alexandre.
À bientôt, Alexandre.
On vous rappelle que les prochains matchs de Monaco, c'est Toulouse et l'Atlético de Madrid à domicile en Ligue des Champions. Voilà, ce sera les premiers.
Je peux rajouter juste quelque chose. Daniel parlait du business, du système, comment ça marche, etc. Ce que je voulais dire, c'est que si sportivement ça marchait tout de suite un petit peu moins bien, que t'imagines un Monaco, je sais pas, j'ai des bêtises, mais 12, 13e, on sait très bien comment ça marche effectivement.
Ah, tu valorises moins tes joueurs.
Les joueurs auront moins de valeur et leur système, il va tenir un peu moins la route. Ils s'apercevront peut-être qu'il faut un équilibre entre le sportif et le business, tu vois.
Je crois qu'il faudrait plus qu'une saison comme ça pour changer quoi que ce soit. Parce que même si cette année, ils terminent, on va même dire hors zone Europe. Les joueurs, ils les ont. Les joueurs qui sont là, ils les ont.
S'ils
en vendent quelques-uns, ils en vendent quelques-uns. Mais même Lille qui a fait une saison cata, ils ont réussi quand même à vendre des mecs.
Oui.
Ils ont quand même réussi à vendre des mecs. Mais je reviens. Ils terminent hors zone Europe. Allez, on va dire 8.
Ouais, pour toi, il en faudrait 2 ou 3 des saisons comme ça pour qu'ils puissent.
Mais après, l'année prochaine, ils repartent.
Ouais, peut-être. Ou alors, ils sont intelligents et ça leur suffit une saison pour comprendre.
Ou alors, ils se sont plantés sur les mecs qui sont incapables de progresser. Ou alors, ils continuent. L'année d'après, ils reviennent dans le haut du classement et puis le business reprend. De toute façon, il n'y a pas d'autre modèle à Monaco. C'est l'unique modèle. Je vois pas de toute façon comment il peut. J'ai toujours dit la saison d'il y a 2 ans. C'est un truc tombé du ciel, un truc inattendu dans le parcours. C'est normalement t'as fait ton business pour pour gagner 10 et grâce à cette saison complètement dingue, ils ont gagné 100. Mais normalement l'idée c'est toujours de gagner 10 chaque année.
Ah ouais.
C'est pas d'aller gagner tout ce qu'ils ont gagné comme oseille parce que ça leur a permis de faire en deux temps. Ils l'ont fait sur il y a 2 ans avec répercussion sur l'année dernière parce qu'ils ont vendu cher
et même sur cet été.
Cet été ils ont vendu Lemar quand même assez cher.
Ouais.
Donc en fait la saison d'il y a 2 ans, elle a eu répercussion même encore sur cette année dans le business. Donc t'inquiète qu'ils ont de quoi croquer 1 ou 2 ans encore. Facile.
Supporter de Marseille, on vous attend au 32-16 pour revenir sur cette affiche, la dernière de la 4e journée de Ligue 1. Marseille qui s'est imposé 3-2 face à Monaco. Je vous propose d'ouvrir le dossier Mitroglou dans quelques instants. Lui qui a fait un bon match, le meilleur depuis qu'il est à l'OM, disaient certains supporters de l'OM d'ailleurs sur le hashtag RMC Live et sur l'application Direct Studio. On vous dit à tout de suite pour la suite de l'after avec Pierre Ducrot et Daniel Riolo.
RMC Football Show, l'after foot, Nicolas Villas.
Toujours accompagné de Pierre Ducrot et de Daniel Riolo, vous êtes avec nous sur le hashtag RMC Live, sur l'application Direct Studio également, et puis on vous attend au 32-16. On continue d'analyser la victoire de Marseille ce soir, 3-2 à Monaco. Tielemans et Falcao ont marqué les deux buts de Monaco. Thauvin, Germain ont marqué les deux buts de Marseille en fin de match. Mais le premier, il était l'œuvre de Kostas Mitroglou. Premier but cette saison pour l'international grec de l'OM, qui a réalisé peut-être son meilleur match depuis qu'il est à l'OM. Alors c'est ce que disaient certains supporters de l'OM. Alors on a souvent la mémoire immédiate sélective.
En tout cas, un match complet.
C'était pas compliqué. Ben non, mais c'est pas compliqué, il a toujours été mauvais. Là, franchement, il fait un bon match.
Ah, il fait un match complet.
Maintenant, si on, à la lumière de ce match, on me dit que c'est un grand attaquant, non. Là, je continue à rigoler. Non. Mais en tout cas, il fait un bon match.
Il est plus affûté déjà.
Ce que je constate. Voilà, c'est vrai qu'il ce qui a été intelligent de la part de Rudy Garcia, c'est qu'il a pas fait, et c'est un coaching, c'est en ça que le coaching est bon, et c'est pas, parce que moi j'aime pas quand on dit coaching gagnant, parce que le mec qui est rentré a marqué.
Ah, mais ça, oui, il est sur le terrain, ça peut arriver.
Tellement limité, là, c'est le lieu commun du football, là, c'est pour la collection. En revanche, là où le coaching, il est gagnant, c'est que, souvent, t'as le coaching du poste pour poste. Là, c'est pas ce qui s'est passé. Et c'est un truc original, à moins que je me gourre, je me souviens.
Ils ont joué 10
pas,
minutes ensemble, déjà.
Je me souviens pas.
Que, et Germain,
ouais, mais
ou
que
ou
Germain Thauvin. Rentre pour Payet? Comme ça?
Ah, ça, je sais pas, à la place de qui, mais
Ça, c'était bien parce que d'abord ils sont à ce moment-là ils passent en 4-4-2 forcément et là bon ben là Germain marque et là tu peux dire bon ben là c'est un bon changement, c'est un changement intelligent. Tu n'as pas fait parce que Mitroglou dans la surface a certainement monopolisé l'attention d'autres défenseurs, que Payet ce serait d'abord c'est Payet qui serait allé certainement tirer, enfin bon, il y aurait pas eu la même présence d'attaquant pur dans la surface à ce moment-là et là je trouve que ça a permis à Germain de marquer en plus un très chouette but de la tête.
Ouais, il va la chercher.
Donc
ouais,
là je parle de coaching vraiment très bon de Garcia sur cette fin de match. Mitroglou est resté et Mitroglou a fait un bon match.
Ouais, voilà. Match complet dans le contenu. Moi, c'est ce que j'ai aimé surtout. Alors, j'ai eu peur parce que dès le début du match, il rate une occasion où honnêtement.
Mais Mitroglou, même au Benfica, quand il en mettait 30 par saison, c'était ça.
Alors, peut-être, sauf qu'à mon avis, il avait un peu plus d'occasions.
Ah bah ça, c'est sûr.
Au Benfica.
C'est pour ça qu'il en mettait 30.
Ici, il en a un petit peu moins et il est là. En tout cas, il est à l'OM pour ça. C'est ce genre d'occasion dans les 6 mètres là entre le point de penalty et la première qu'il loupe à l'intérieur du pied gauche qui met complètement plein axe du but où là son geste d'attaquant il doit être un peu mieux fait, il doit essayer de trouver un côté au moins pour mettre en difficulté le gardien de Monaco.
Case.
Ouais,
ah,
il doit faire mieux. Ah, et là je me dis putain si ça repart comme ça, on sait jamais, il va cogiter. Et en fait non, il refait un match complet. Alors, complet quand je dis complet, c'est parce qu'il joue beaucoup de ballons, on le trouve beaucoup dans le jeu.
Le fameux grec complet.
Tout à fait. Il y a des matchs où on s'en rappelle tous où tu trouves pas Mitroglou dans les plaies quoi, dans les pieds, il se fait devancer ou même il décroche pas parce qu'il est, et je pense que son physique a beaucoup à voir là-dedans. Je l'ai trouvé beaucoup mieux, beaucoup plus affûté là et ça lui permet de faire beaucoup plus de choses tout simplement, c'est juste logique.
Il y a Mec Relax sur le hashtag RMCLF qui nous dit Kostas Mitroglou, je suis choqué par son niveau, il est enfin prêt physiquement. Mais c'est vrai qu'il était vraiment affûté pour le coup dans ce
match.
Oui,
ça sent dans ses déplacements. Et tu sais dans quoi ça sent aussi? Souvent, un attaquant, tu vois ça, c'est dans sa coordination, dans la vitesse de geste qu'il a, dans certains dribbles. Alors il en fait pas beaucoup, Mitroglou, c'est pas son jeu. Mais à un moment donné, sur le côté droit, je m'en rappelle, il dribble deux joueurs de Marseillais avec une gestuelle assez rapide, assez vive. Ça, on l'a vu très rarement, et je pense qu'il était physiquement pas prêt pour le faire. Et là. Voilà, ça semble être le cas. J'espère qu'il gardera ce physique toute la saison.
Il y a qu'un truc qui m'a choqué ce soir chez Mitroglou, c'est sa barbe. Elle est vraiment dégueulasse. Hein.
Ouais, alors, c'est bien pas placé, taillé, c'est un peu l'hôpital régulier. qui se fout de la charité.
Tu rigoles ou quoi? Tu commences à... Attends, c'est pas taillé, c'est pas régulier.
Elle est taillée là?
Ouais, bah faut que j'aille la semaine prochaine. Quoi. On va accueillir Mathieu, supporter de l'OM, qui nous a appelé au 32-16. Salut Mathieu.
Salut, bonsoir à tous.
Bonsoir Mathieu.
Alors Mathieu, comment tu l'as trouvé toi, Mitroglou, ce soir? Comment tu le trouves d'ailleurs globalement depuis qu'il est à l'OM, tiens, Mitroglou?
Ah bah nul. Depuis qu'il a l'OM nul, on peut pas prendre sa défense. Même moi qui essaie toujours de donner la chance aux joueurs, même il peut louper. Mais moi, ce qui me rend dingue à Mitroglou, c'est qu'il fait jamais d'appel contre appel. Il reste figé comme un poteau, il bougeait pas. Tandis que ce soir, on l'a vu bouger beaucoup plus, faire justement plus d'appels, même dans sa conduite de balle. Il a été beaucoup plus précis dans sa conduite de balle. Il a eu des occasions qu'il a loupées, mais au moins il s'est procuré quoi.
Non mais c'est vrai que d'habitude il donnait cette impression de...
Mais tu sais que c'est son style, hein. C'est un genre de surface. Oui,
mais d'habitude il était sur le terrain, t'as l'impression qu'il sortait de table. T'as, il était là, il était dans la digestion.
Ouais, toujours un peu, il a toujours été comme ça, franchement.
Un peu gras comme un loukoum. Là, t'as, bon, attends là, je viens de manger là, j'ai un gros repas, j'ai un banquet, la famille, tout. J'arrive sur le terrain, tu es un peu lourdeau quoi. Là, ce soir, bon bah écoute, ouais.
Il était sorti de table depuis 2 heures.
Il a bu le bureau quoi.
Ouais, j'ai juste pris un petit déj ce matin. Voilà. C'est tout. Donc il était un peu plus vif. Il était
un peu plus vif. Ouais.
Mais franchement, c'est vraiment son style, à Mitroglou. Moi, j'insiste là-dessus, les gars.
Appel contre appel, malheureusement. Appel contre appel, tu verras jamais.
Ah non, mais ça, mon gars, affûté, pas affûté.
Il est marrant l'autre. Non, mais c'est son. Mais attends. Et donc t'as un mec qui est habillé comme un clodo. Mais c'est son style. On a le droit de pas aimer ou quoi?
Non, mais c'est pas.
Excuse-moi.
Non, mais c'est pas ce que je suis en train de te dire. C'est que de dire.
On a le droit d'aimer, de pas aimer le style ballon.
Il est bon dans son style.
De dire j'aime pas. Attends. De dire j'aime pas.
C'est son style.
Et il est bon dans son style. C'est une chose de dire il est nul. Je veux dire, le mec, si te claque tes 30 buts dans la saison, même s'il est dégueulasse, il va te mettre 30 buts dans la saison.
Je pense qu'on en est loin. excuse-moi.
Ah bah voilà, mais bon.
Si plante 30
il en manque plus de 29 sur les mecs. Hein.
Non, mais Mitroglou, il y a plein d'attaquants en Ligue 1 qui peuvent prendre sa place. Je veux dire, même Emiliano Sala, c'est au-dessus.
Ah bah oui,
c'est différent. C'est différent.
Sala à l'OM, il se régale.
Moi, je trouve qu'il se régale. Je pense que tu as beaucoup d'images du Benfica. Et la situation est complètement différente.
Je crois que c'est le mec qui est passé au Portugal.
Non, ça n'a rien à voir. Alors, si, bien sûr, les mecs qui sont passés au Bled, je suis pas fan.
En tout cas, je pense que tu
vous connais,
je suis capable de refaire la même chose ici.
C'est pas du tout le même jeu. C'est pas du tout. Moi, je vous dis pas que j'apprécie le joueur. Je vais dire, Cardozo, meilleur buteur étranger de l'histoire du Benfica. Je détestais son style de jeu.
Mais il est pas passé en France, donc t'as pas besoin de le défendre.
Mais non, c'est pas ça, je défends pas. Je te dis simplement que Mitroglou, j'aime pas son style de jeu. Mais je te dis que pour qu'il brille, il faut que l'équipe joue d'une certaine façon. Oui. Moi, j'avais vu à Fulham, il avait été catastrophique.
C'est là le problème. Il faut qu'elle joue contre des équipes de Ligue 2 qui soient peinards.
Pas nécessairement, mais c'est un genre de surface.
Il faut déjà que tu sois très au-dessus du lot pour avoir la possession tout le temps du ballon.
Il faut un mec autour de lui qui bosse pour lui.
Beaucoup de ballons dans la
surface. Tu peux être joueur de surface et quand même bouger et aller dans
la surface. Mais c'est pas lui.
Il faut que le défenseur vienne pas trop vite sur lui pour avoir un petit peu de temps.
Que le gardien fasse pas trop d'arrêts.
Il faut que le gardien, si possible, quand le ballon arrive dessus, se déchire un peu.
Voilà. Ça, c'est possible.
Il faut qu'il perde 2-3 kilos.
Ouais, mais ça, c'est relou,
déjà. C'est un peu grassouille.
Je suis pas sûr que ce soit des kilos en trop, moi. Je suis pas sûr.
Alors, c'est quoi?
C'est quoi? Il a juste un gros cul?
Non, je suis pas sûr que ça se situe au niveau des kilos. Je pense que c'est dans la préparation physique, tu vois, qui manque de jus, etc.
Il est un peu balourd.
Ou alors, il en boit trop.
Ouais, mais justement, c'est bon en termes de kilos, tu vois ce que je veux dire?
D'accord, oui. Il est un peu emprunté.
Et puis, là, il a quand même fait preuve de mental, parce que la première action qui vendange, bon, même si elle est pas facile. Enfin, si, la première occasion.
Mentalement, moi, je trouve qu'il est pas mal, pour le coup. Je trouve que c'est un mec qui...
Mentalement, elle était bon, parce que quand il vendange occasion de la croiser, il la met sur le gardien, c'est plus lui qui loupe que le gardien qui l'arrête. Mm-hmm. Il a quand même réussi à se remettre dedans et à persévérer et à créer des occasions à marquer. Donc pour ça, c'était bon.
Oui, puis il a quand même subi pas mal de choses l'année passée, il a jamais lâché, c'est vrai.
Je vous la donne, il vient d'avoir la réaction d'Adil Rami là, il y a quelques instants, qui a déclaré j'ai relancé le match à moi tout seul, ça a été dur, j'ai vu des étoiles ce soir.
Ah bah oui, je peux comprendre.
Il va falloir que je me remette les points sur
le terrain. C'est rigolo, j'ai vu des étoiles.
C'est bien pour lui que ça se termine par une victoire de l'OM. Comme
oui, ça, ah bah là, ouais, ça passe un peu mieux.
On oubliera, il y a la trêve internationale, il va pouvoir se reposer et puis se fitter un peu pour revenir bien en forme. Voilà quoi.
Ouais, ça va mieux passer.
Mathieu, vas-y.
On sait pourquoi il y a un problème avec Camara ou qu'est-ce qu'il fait?
Non, je sais même pas s'il y a un problème, hein. c'est juste un choix, ouais.
Ouais, c'est choix, mais on avait vu déjà sur la deuxième partie de saison l'année dernière qu'il aimait bien Gustavo derrière. Hein.
Non, mais Gustavo, il n'y a aucun souci. Maintenant qu'on a Strootman, l'année dernière, c'était impossible de se le permettre, mais là, on peut se le permettre vu que Strootman, c'est un peu dans le même style, entre guillemets, que Gustavo. Mais Rami, là, on voit qu'il est cramé. Et on lui rend pas service, la preuve, ce soir, on lui rend pas service en le faisant jouer. Et moi, c'est Camara, j'aurais mis Gustavo et Camara, quoi. Il a été super bon, Camara, dans ses matchs.
Ouais, mais à un moment, il faut que Rami joue, quoi. C'est le patron de la défense. Il faut qu'il enquille les matchs et qu'il revienne. Tu le rendras pas service en le mettant sur le banc. Il faut qu'il ait de la compète. Il faut qu'il y aille, là.
Par contre, je suis d'accord avec Mathieu, mettre Camara, ça semblerait, pour moi, en tout cas, quelque chose de logique.
Là, imagine, là, tu perds le match, Rami. T'imagines comment il est sous terre, là, si on perd le match à cause de lui, là.
Ouais.
Il est costaud mentalement, Adil Rami, mais effectivement, il s'aurait ruminé quelques jours.
Tiens, Mathieu.
C'est un mec que j'adore, mais bon.
Mathieu, on va se faire l'évaluation de ce Monaco-Marseille avec toi. On rappelle, Marseille s'est imposé 3-2 à Louis II ce soir. Qui pour vous, pour vous trois, les gars, qui pour vous est le cador de ce match? L'homme du match, donc.
Strootman.
Strootman cador.
Non, moi, vous savez quoi, j'ai envie de dire un truc, mais c'est un peu, sur le temps de jeu qu'il a eu, c'est pas objectif, mais Thauvin, ouais, parce qu'il a, pour moi, il a changé la seconde période, voilà, vraiment, vraiment. Donc j'aurais tendance à le mettre lui, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de joueurs au-dessus ce soir.
Je pense que quand il rentre, son accélération, son décalage,
et la
finition,
Et puis il a eu d'activité, au-delà de ça,
effectivement, ça change le match, parce que je pense que l'OM est mal embarqué dans cette partie.
Ah ouais.
Ils peuvent se retrouver avec un match perdu, un peu à la con, parce que je crois pas qu'ils auraient mérité la défaite. Et finalement, c'est un petit peu comme si Thauvin avait remis la vérité dans le match, quoi.
Et tu sais quoi? Et en même temps, quand tu fais deux erreurs grossières comme ça, parfois tu la mérites la défaite.
En parlant de taulier, Luis Gustavo, ça reste un taulier, hein.
Oui, on va y venir,
Et vous avez pas trouvé Strootman qui était bon?
Si, bien sûr.
Très sobre.
De l'en mettre cadeau. Très sobre et très serein, mais ouais, voilà, il a pas été au-dessus du lot, mais c'est normal pour un
cador, c'est bon, c'est Thauvin. pied carré de ce match. Bon, c'est facile, ça.
Bah, t'es un peu obligé de mettre Rami quand même, quoi.
Bah, oui. Ah, bah oui, ah bah, ce soir, c'est Rami.
Ouais. Ah, y a pas de doute.
Voilà, y a pas de doute. Ok, le taulier de ce match, du coup. Gustavo, bah, toi, Gustavo, tu dis, Daniel,
ouais.
Toi?
Ouais, Gustavo, je suis
d'accord. Ce soir, à l'OM, tu peux toujours mettre d'office.
Gustavo ou Mitroglou sur ce match, parce qu'il a pesé, il a été là, il a joué bien les ballons.
Mais tu sais quoi, on devrait même d'ailleurs appeler l'intitulé, le Gustavo du match, dans ce cas-là. Plutôt que le taulier. Non, mais sérieux. Non, mais,
le Gustavo
du match.
Le Gustavo du match.
On va faire ça maintenant. Et tu notes Jérôme Thomas, ce sera le Gustavo.
Et encore une fois, avec toujours, pour le coup, là, toi qui défends les styles, dans son style, encore une fois, au Campos, moi, il n'y a rien à dire à ce
mec-là. Oui, c'est arraché.
On peut dire ce qu'on veut, mais ouais, il se bat.
En revanche, dans son style, j'ai trouvé Payet, encore une fois, moyen.
Ouais. Payet et Sanson. Payet, Sanson. Les deux ensemble.
Ce qui est terrible, c'est qu'il est...
Bounassar.
Mais il est décisif encore,
Payet. Il a fait plus de choses, quand même.
Ouais, mais Bounassar, c'est bien quand il va, c'est maintenant, c'est un arrière-droit, quoi. Qui lui prennent pas l'idée d'aller le remettre à son poste naturel, parce que là, ça redevient.
Il met une vraie galette au début du match. Hein.
Ah, mais ok, oui, ouais. D'accord, il a le droit de réussir un centre.
Ça va lui donner envie. Hein.
Ah, il a le droit. Ouais, non. En plus, ça pour le coup, c'est une passe décisive.
Comme celle de Payet, elle est magnifique.
Ah non, mais c'est... Oui.
Mais bon, très belle. Le Casper du match, les gars.
Il vaut mieux qu'il redevienne arrière-droit, malgré tout.
Le Casper de ce match, de ce.
Sans avis.
Côté Monaco là.
N'importe, on mélange. Bah de toute façon, t'as dit Marseille.
On mélange. Bah la semaine dernière, tu m'as dit qu'on mélangeait pas.
Ah non, j'ai dit on mélange la semaine dernière.
Je me suis retrouvé chez Sagou et chez Adrien parce que j'avais mélangé là à cause de toi.
Il a pas compris. Non, on mélange. Adrien, si tu nous écoutes, et je sais que tu vas écouter parce que tu vas tout saigner comme d'habitude, on mélange maintenant.
À ma vie, Sanson.
Ouais, Sanson.
Mais t'es pas de Monégasque.
Les Monégasques, en fait, on s'en casse.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
C'est pas grave.
Monaco, c'est j'allais dire,
Heinrich,
ils ont tous été mauvais.
Ah oui, Grand Seigneur aussi, pas terrible, Grand Seigneur.
Ouais, moi j'allais dire Grand Cyr parce que son pendant, Lopez, a quand même eu plus d'activité. Bon, Falcao, là, rien, ça a marqué un but.
Son pendant
de l'autre côté.
Ça tendance, j'aime bien, ouais.
Ouais, parce que la reprise,
hein. Bon, mais qui alors, Casper? Alors, tu dis qui, toi?
Ouais, moi, je vais mettre Grand
Cyr.
Grand Cyr, toi, tu dis qui?
Pour équilibrer un peu.
Tania, tu dis qui, du coup? En Casper, toi?
Henri.
Je crois qu'on dit Henrix, en plus.
Ouais.
Mathieu?
Ouais, Sanson, non, j'aime bien ce joueur-là. Il fait comme des efforts, mais à ma vie, je suis en peu plus à ma vie.
Vas-y, t'as dit qui, toi?
Grand Cyr.
Ouais, vas-y, pour toi. Grand Seigneur, parce que j'aime bien le pseudo de... Récapitulatif de l'évaluation de ce Monaco-Marseille. L'homme du match, le Cador, c'est Thauvin. Le pied carré, c'est Rami. Le Gustavo, c'est Gustavo. Et le Casper, c'est donc Samuel Grand-Cyr. Merci Mathieu d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Bonne soirée Mathieu.
Bonne soirée Mathieu. À très vite Mathieu. Et nous, on se retrouve dans quelques instants. On va revenir sur la victoire du Stade Rennais 2-0 face à Bordeaux, sur le match nul entre Saint-Etienne et Amiens, et quelques infos du jour également, et notamment des infos du côté de Rennes. Il y avait la conférence de presse de présentation d'Atem Ben Arfa au Stade Rennais. À tout de suite.
RMC Football Show, l'After Foot, Nicolas Villas.
Toujours accompagné de Pierre Ducrot et de Daniel Riolo. On vous rappelle les derniers résultats de la quatrième journée de Ligue 1. Ce soir, il y a quelques instants, Marseille s'est imposé 3-2 à Monaco. Un peu plus tôt cet après-midi, 0-0 entre Saint-Etienne et Amiens. Et Rennes a battu Bordeaux 2-0. On va s'arrêter d'ailleurs sur cette victoire du Stade Rennais 2-0 face à Bordeaux. Les buteurs André et Bensebaini en tout début de match. Rennes qui enchaîne. Pas mal, les Rennais.
Bensebaini, qu'est-ce qu'il met comme but en ce moment? C'est monsieur un but par match.
Il a mis un CSC la semaine dernière, c'est pour ça qu'il dit ça, le Daniel Riello.
Rennes qui avait dit... En fait, j'ai vu quoi, tu vas parler aux auditeurs comme si c'est des teubés qui comprennent pas les
blagues. Non, mais c'est bien de le dire parce que c'est quelqu'un rejoint. Il y a peut-être des gens qui savent échapper, Daniel.
Premier degré, second degré.
Commence l'émission, tu sais, quand tu fais le sommaire. Bon, alors, pour les auditeurs teubés, il y aura des blagues dans l'émission parfois.
Ouais, complètement.
Donc, je vous les expliquerai.
Ouais.
Restez attentifs.
Ouais, non, mais je le dis.
C'est ça, en fait.
Mais je le dis.
Ok. Non, mais tu fais bien.
Je rappelle que le mec, il a mis un CSC la semaine dernière.
C'est de l'info.
C'est de faire des vannes.
Les gens savent.
Mais pas tous.
Parce
pas
que
forcément.
Les gens écoutent, parce que les gens suivent.
Est-ce que tu crois vraiment que Pierre Ducrot, qui était à Punta Cana, il était au courant qu'il avait planté un CSC la semaine dernière?
T'es pas obligé de dévoiler mon lieu de vacances.
Ok. Est-ce que tu savais?
Oui, j'étais au courant.
Je vais juste donner le pays, qui était en République Dominicaine.
Excuse-moi. Donc, toi, mois d'août, tu vas en Rebdom.
J'étais sûr qu'il allait partir là-dessus.
C'est pas du tout le moment pour y aller.
Eh ben, 12 jours de soleil.
Ok. Après Fred
Hermel qui rate ses vacances en Grèce, on a Pierre Ducrot qui rate ses vacances en Rade de Grèce.
Je ne te dis pas Pierre Ducrot a raté ses vacances. Pierre Ducrot a eu 12 jours de soleil.
Ok, t'as eu du cul.
T'es un boss, t'es pas un boss. Quand il va, t'as le soleil, c'est tout. Quand il va, t'as la pluie, c'est pas mon.
Je te dis, moi, j'ai sur la route. J'ai de destination.
Moi, j'ai sur 12 jours de soleil.
Le climat devait être un peu lourd.
Non, un peu humide. Mais c'est pareil dans la bonne saison.
Il était
humide aussi.
Il flinguait le t-shirt de sueur à 16h.
Mais pas du tout, parce que tu mets pas le t-shirt là-bas quand t'as la swim up avec la chambre sur la piscine.
T'es gouré.
T'es gouré. Mais non, j'ai passé une bonne vacances.
Calme-toi. Demain soir, il y aura Fred Hermel. Vous pourrez parler entre mecs qui
racontent. Qu'est-ce qu'il a fait après? Et comment il s'est débrouillé pour rater des vacances en Grèce?
Mais non. Bah, tu sais pourquoi? Lui, il va en Grèce, il reste une semaine à Athènes sans bouger.
Ah ouais, là, c'est dur.
Bah voilà, tu vois, voilà.
Ah ouais. Savais, et toi qui as joué, alors toi qui as joué en Grèce, hein, à Kavala. Ah mais c'est une grosse erreur, c'est
d'accord.
Fait,
bien sûr. Tu prends le bateau, tu vas sur les îles, tu vois.
Mais tu sais quoi, j'y passe, enfin, si, à l'aéroport. Tu passes juste à l'aéroport à Athènes, c'est tout.
Mais c'est un truc à voir à Athènes.
Mais tu vas, alors tu vas sur les îles si tu veux, mais si tu veux rester même en Grèce, même sans aller sur les îles.
Même tu peux même, c'est vrai, tu peux aller
sur les îles. Ouais, voilà. Alors, le Péloponnèse, par exemple. Moi, j'étais, quand j'étais à Kavala, la plage Thessalonique.
Thessalonique, c'est
le des plages, toute la côte magnifique, là.
Je suis jamais allé en Grèce. C'est vrai que c'est top.
T'es dingue ou quoi?
Non, c'est vrai, je suis jamais
allé. Et les gens sont extraordinaires.
Finalement,
bah, demande à Mitroglou, ton pote là, il va t'organiser.
Je le connais pas, Costas.
Non, Athènes, c'est bien si t'y vis et que t'as tout ce qu'il faut pour. Voilà.
C'est pas mon pote de bar, Mitroglou. Elle est dégueulasse, la sienne. Hein. Je le dis,
bon,
je le répète.
Cas, voilà. Donc après Fred Hermel, Pierre Ducrot.
Non, j'ai passé très bonnes vacances.
Messieurs, tu sais que t'as eu beaucoup de chance.
Oui, je sais.
C'est vraiment pas.
Je sais, mais ça.
Qu'est-ce qui te prend
la chance?
Toi, t'as eu un tarif au Club Med.
Non, non, j'ai pas été au Club Med.
T'as croqué un.
Non, j'ai pas été au Club Med.
Dans un bon hôtel pour le.
J'ai pas été au Club Med.
T'as croqué un truc.
Non.
C'est pas une saison normalement au niveau.
Non, j'ai choisi, j'ai demandé, j'ai commandé le soleil avec et j'ai tout eu.
Alors sachez, demain on aura un after de 3 heures. Fred Hermel sera avec nous, donc on fera bien entendu une petite parenthèse sur les vacances. Vous pourrez vous expliquer avec Fred Hermel et sur cette semaine en Grèce. Voilà, on en reparlera demain. On vous donne rendez-vous dès 21h.
Je sais pas, toi, t'es allé où toi?
Bon, moi je suis allé au bled.
Ah, moi je sais.
Mon nouveau bled.
Mais cette année je croyais que tu devais pas aller au Portugal. T'as dit.
Non, non, mais c'est plus ça mon bled. Moi, je vais tous les ans au même endroit maintenant.
T'as changé de bled. Et ouais, c'est quoi?
Moi, je vais en Corse.
Il va en Corse. Il est chez lui maintenant en Corse. Ouais, d'accord.
Franchement, voilà.
Très bien.
Eh oui.
Où ça?
Là, je suis allé à Calvi.
À Calvi.
Mais j'ai bougé un peu moi.
Bah, c'est bien. Non, mais c'est une.
T'as pas la Corse?
Si, c'est une belle destination.
Et à chaque fois, tout l'été, il revient et.
Bah, c'est une belle décision.
Bah, c'est pas parce que quelque chose, tous les étés, le transat, il me coûte trop cher.
Les Grecs, les Dominicains, les Mariano Diaz, on y va. Mais alors, les Modestos, là, tu la fermes.
Je vais te dire. Tu veux mon avis sur la question?
Alors, vas-y.
C'est une très belle région, mais je pense qu'il faut avoir beaucoup de moyens pour réellement en profiter.
Et voilà.
Sinon, tu te fais un peu des vacances de touristes Bob Ricard.
Quand Nicolas Villas revient de
Corse, tu pars. Je pense que t'as voulu aller là-bas pour jouer au grand. Et que t'as pas forcément profité comme il fallait.
Daniel,
Corse,
j'ai passé.
Il faut avoir le bel hôtel. Je pense qu'il faut mettre un peu d'oseille sur la table.
Non, il y va en voiture. Il a les deux transats dans le coffre.
Limite, il a pris le bateau pour aller.
Voilà. J'ai vu un bateau.
Le gros cargo, là, machin. Ouais, t'es mis dedans. T'as bouffé l'essence, là, pendant une heure. Là, t'es arrivé, t'étais pâle, tout blanc. À chaque fois que maman, elle demandait la chaise longue sur la plage. Oh putain, ça va coûter 50 balles. À midi, on mangera une salade.
On voit que tu connais mes vacances. Hein.
Ouais, un petit peu. C'est vrai que le coup des transats, tu t'en es plein.
Moi, je devine tout.
Le coup des transats, tu t'en es plein.
C'est-à-dire, à la plage, je suis obligé d'aller sur un transat.
Le mec qui revient de vacances, c'est qu'il se plaint du prix, c'est qu'il s'est planté.
Mais c'est parce que
c'est qu'il est pas là où il fallait, c'est que t'as pas les moyens.
C'est con, tu fais les questions et les réponses. Je suis en train de te dire que pour moi, les vacances, c'est obligatoire. Mais non, mais il déconne, c'est du second degré, c'est l'inverse.
Ouais, mais alors tu nous as dit que tu précisais à l'auditeur quand t'étais du second degré.
Du blé pour bien.
Ah ouais, c'est vrai que j'ai oublié de le dire. J'ai oublié de dire que j'avais des vannes. Sinon, il y a Rennes qui a gagné, et ça, c'est pas une vanne. 2-0 face à Bordeaux. Jérôme Thomas, il est comme un ouf, on en parle pas.
Ça, j'ai un gros fantasme, c'est d'être organisateur de vacances pour les gens.
Alors, tu devrais en parler avec Antoine Varnier. Voilà, le producteur de Team Bugatti. Alors lui, c'est un malade de ça aussi.
Non, mais rien du tout. J'en ai parlé avec lui. Non, mais lui, il te fait des trucs, tu finis dans une cave.
Lui veut vendre des trucs pourris cher.
Parce que je sais que lui, il a un peu le même délire que moi avec
ça. Oui, complètement.
Oui, mais alors lui, c'est
pas de la même manière.
Toi,
tu veux faire kiffer les gens. Lui veut se faire kiffer.
C'est une solderie des vacances. Moi, je suis vraiment dans le top kiff. Les gens, moi, quand tu leur organises un truc, ils reviennent, ils sont.
Et toi, lui, dit pareil.
Non.
Mais il est un peu mytho, Antoine, quand même.
C'est bon, ouais. J'écouterai plus.
Bref, Rennes s'impose donc 2-0 face à Bordeaux. Alors, Rennes qui restait sur un match nul face à l'OM, quand même, de partout. Une victoire face à Angers auparavant. Ils sont là, les Rennais.
Écoute, c'est l'équipe fraîcheur du début de saison.
C'est pas mal, hein.
Alors, parce qu'ils sont en train un petit peu de faire triper tout le monde avec leurs recrues. Donc,
Mbaye Niang et Ben Arfa.
Ben Arfa, c'est le joueur kiff. On va dire, c'est le gars, on a tous envie qu'il réussisse. C'est vrai, c'est marrant parce que c'est le mec, Je sais pas, je l'ai entendu parler tout à l'heure, tu t'es là.
T'as envie que ça marche.
Puis tu peux penser
que ça marche dans un club comme Rennes.
Voilà, donc Rennes, tout le monde est content en ce moment, le président est content, la Mouchi est content, il y a les résultats, ça joue parce qu'au milieu, ils ont vraiment des joueurs de ballon. Les gens viennent au stade, et à Rennes, les gens allaient au stade même quand ils prenaient des claques.
Donc ils y viennent avec un peu plus de plaisir et ça s'entend.
Ils sont contents. Mm-hmm. Et là, tout le monde est en train de se faire son petit kiff à Rennes. Je trouve que c'est très sympa. Donc on va suivre ça de près toute cette saison. Alors il faut faire attention toujours avec Rennes, parce qu'à chaque fois que tu commences un petit peu à être
l'enflammade,
dans le surkiff, c'est là que ça.
Et ben on va voir si les.
Mais bon, l'année dernière, ils ont tenu, hein, parce qu'on disait déjà attention.
Avec la Mouchi, ça tue. Il n'y avait pas les mêmes hommes.
Il n'y avait pas forcément les mêmes hommes à la tête du club. Peut-être que ces hommes-là.
T'as rajouté des beaux joueurs de foot.
Ouais, je suis d'accord.
Alors pour le coup, les deux prochains matchs, les deux prochaines journées, c'est deux vrais bons tests pour Rennes. Ils ont un déplacement à Nice et un match contre le Paris Saint-Germain.
Deux gros matchs. Ouais.
L'arrivée de Ben Arfa, vous en dites quoi, les gars?
Je pensais plus à leur groupe parce que ça a été tiré cette semaine de Ligue Europa. Bon, ils ont un groupe bonbon, quoi. Mmh. Donc ça, déjà, c'est un petit supporter de Rennes. Tu t'envisages de sortir des poules, de te retrouver en 16e.
Enfin, bonbon, c'est quand même un groupe relou. Franchement, ça, c'est vraiment les groupes à la con.
Attends, mais tu veux quoi? Tu veux qu'ils soient qualifiés d'office, les mecs, ou quoi?
Attends, tu fais Dynamo Kiev, tu vas Astana, Yablonets, ok, encore en République tchèque, ça passe. Après, c'est les déplacements relous, Daniel.
Oui, en Europa League, t'as que des déplacements relous.
Pour moi, c'est les vrais groupes à la con, ça.
Non, mais d'accord.
C'est exactement ce que Rennes a eu jusqu'ici en Coupe d'Europe.
C'est pas sexy. Voilà. Ok, c'est pas sexy.
Mais tu dois pouvoir t'imposer.
Moi, je préfère aller à Liège ou à Kizar, les trucs comme ça. Sincèrement, les gars.
C'est des matchs pièges si tu les abordes mal, mais ça reste sportivement plus abordable que d'aller à Liège.
Tu verras pour la prépa tout le bordel.
Mais c'est pas toi qui t'en occupe, ça, cousin.
Ok. Mais c'est
Daniel, du coup.
Le déplacement. Ah oui.
Non, mais
tu gères ou pas?
De quoi?
Le déplacement de Rennes.
Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais Rennes, en ce moment, ils ont besoin d'un truc un peu facile et de sortir du groupe. Tu vois, c'est pas encore l'équipe qui peut également prétendre au beau voyage et tout. Oui, c'est vrai que ce groupe, c'est pas sexe. T'as l'impression, tu rentres dans une boîte de nuit, oh putain, il y a que des boudins ici. C'est un peu l'impression que ça donne, quoi. Non, mais c'est vrai, ça fait pas kiffer les trois déplacements. Mais bon, au final, moi, je pense qu'ils ont surtout besoin de passer. Tu demandes à Jérôme, il s'en fout, il est content, lui. Hein.
Jérôme, t'es content ou pas? On lui pose la question en direct.
Jérôme, il a envie de passer, il sait qu'il est en 16e.
Gros compliqué, dit-il.
Après, moi, si j'ai une...
Tu me diras, une époque, il perd.
On est personne en Europe, dit-il. Il nous appelle le 32-16, Jérôme.
Non, c'est vrai.
Après, si j'ai une incertitude, c'est peut-être la profondeur de banc, justement, pour,
Ligue 1, quand même.
Ouais, c'est peut-être un peu juste. C'est une incertitude. C'est pas une voilà. Je suis pas sûr de ce que j'avance.
Ils vont aller gratter des nuls en bois bidon dans les destinations machin là, et ils gagneront chez eux. Ils vont se qualifier en 16e. Voilà.
Un mot sur Bordeaux, les gars. Quand même.
Oui, mais c'est pour en championnat pour faire les deux de front.
Ah, ça oui.
Un mot sur Bordeaux quand même, les gars aussi. Bah, rechute hein, au final.
Mais rechute, en championnat.
Continue de naviguer à vue, ouais. Après.
Bon, c'est apparemment.
Continue de naviguer à vue, c'est-à-dire.
Apparemment, ça s'éclaircit un peu, parce qu'on sait pas trop. Ricardo, manager. Donc, Bédou, elle va rester,
hein. Ah oui, sur le choix du coach, je veux que tu parles.
Je croyais que tu parlais sur le terrain.
Donc, a priori, c'est Bédou qui reste sur le banc avec Colter. Et Ricardo en genre super manager au-dessus quoi.
Ouais.
Ça c'est la tendance. Normalement, ça devrait être comme ça. Pour peut-être pas trop changer ce qui était en train de commencer à marcher avec cet entraîneur là. Bon après rechute. Ouais ok mais ça va mais dans ces cas tu peux pas dire tu vas à Rennes qui est l'équipe fraîcheur du moment, qui joue et tout.
C'est
pas la claque de l'année.
C'est quand même dommage quand
t'as fait 5 matchs en 10 jours, en je sais pas combien de jours récemment et tout.
C'est un peu logique aussi.
Ok, faut que je trouve un autre mot encore alors.
Non mais
ils perdent.
C'est pas dingue d'aller perdre à Rennes pour
Bordeaux.
Oui.
Alors cela dit, quand même, duel entre deux équipes européennes. On vous rappelle que la Ligue Europa, en plus de la Ligue des Champions, vous la suivrez sur RMC Sport, bien entendu. Je vous rappelle le groupe quand même de Bordeaux aussi.
C'est bonbon.
Slavia Prague, Copenhague, Zénith.
Normalement, ça peut passer. Quoi. Non, mais ça doit passer.
C'est plus dur que Rennes.
Dans ces cas-là, c'est quoi le groupe de l'OM? Le groupe de l'OM, il est plus relevé.
Ouais, je suis d'accord.
Le groupe de l'OM est plus relevé. Des trois, c'est moins bien loti, Marseille.
Ouais. Après, franchement, Copenhague et Zénith. Oui,
c'est costaud.
Niveau expérience européenne, c'est pas dégueu.
C'est costaud. Je suis d'accord.
Mais tu dois quand même essayer d'être faire deux au moins, non?
Ouais, c'est-à-dire que Marc, tu me diras, tu vas dire que t'auras toujours des relous dans tous les groupes. Hein.
Oui, bien sûr.
Real Betis, Milan, Olympiakos, Dudelange.
Si tout est relou, même l'équipe du coin, on arrête là, quoi.
Okay. Bon, on arrête là, alors.
Voilà.
On s'écoute Ben Arfa, tiens, aujourd'hui, il y avait la conf de présentation d'Atem Ben Arfa au Stade Rennais. Alors, Atem Ben Arfa, qui était aussi courtisé par Nice, il a expliqué pourquoi il a choisi Rennes plutôt que Nice.
J'ai passé une année exceptionnelle là-bas avec tout le monde, avec ceux qui s'occupent du club, avec les supporters. Je me suis bien senti dans la ville. Mais aujourd'hui, c'est je passe à une autre à quelque chose d'autre. Donc c'est quand même compliqué aussi de retourner avec son ex. C'est assez compliqué.
On aurait dit une phrase de Daniel Riolo dans l'after. Ouais, c'est vrai, il y a un peu de ça, non?
Non, on peut comprendre.
Ouais, moi, comme je disais tout à l'heure, écoute, il a parlé, maintenant j'ai envie qu'il marche, quoi.
T'as un peu l'impression de revenir en arrière, alors que là, c'est un nouveau challenge, quoi, tout simplement.
Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations autour de son état de forme également. Il a pas joué depuis avril 2017 à Tem Ben Arfa en match officiel. Alors, il a expliqué qu'il y a un programme qui avait été mis en place, etc., pour qu'il revienne. Ouais. C'est vraiment là qu'on va l'attendre aussi, hein, et qu'il y a le plus d'interrogations.
Oui, et c'est peut-être là aussi qu'il faudra être un petit peu patient, et je pense que les dirigeants rennais, le staff rennais le sait pertinemment. Après, c'est pas un joueur qui a été blessé, c'est différent ça, c'est pas un joueur qui a été écarté des terrains pendant un an et demi, c'est un joueur qui a pas eu de compétition pendant un an et demi. Alors ça manque énormément la compétition, surtout aussi longtemps, il va falloir qu'il retrouve le rythme, mais physiquement il revient pas d'un an et demi sans avoir cavalé, etc. Il a sûrement bouffé des séances d'entraînement, il va falloir lui laisser un peu de temps pour récupérer le rythme de la compète. C'est voilà. Et bon, après, c'est moi je trouve que c'est un vrai bon coup pour Rennes. L'avenir nous dira si j'ai raison ou pas, mais en tout cas, ça matche bien, j'ai l'impression.
Autre match de ce dimanche, Saint-Étienne-Amiens. Alors 0-0, là aussi. Alors Saint-Étienne qui enchaîne avec un nouveau match nul, qui a pas encore perdu, hein, cela dit, hein, cette saison, l'AS Saint-Étienne. Il y a eu un but quand même de la part des Stéphanas, la 77e, c'est Colo Diezac qui avait marqué. Alors le but qui avait été refusé par l'arbitre Thomas Léonard, après avoir fait appel à la VAR. Alors ça a duré quand même un certain temps, hein, ça a duré plus de 2 minutes, puisqu'il y avait deux fautes d'ailleurs dans la surface de réparation, une de Colo d'ailleurs, une autre de Berilch également dans la surface de réparation, et c'est vrai que finalement le but a été refusé aux Stéphanois. Alors il y a pas mal d'explications à la fin du match, Jean-Louis Gasset qui après a dit bon bah pourquoi on a fait appel à la VAR et pourquoi on l'a pas fait avant. Voilà, on vous a calculé ça, ça a duré même presque 3 minutes hein, même en tout d'ailleurs.
Il y a pas de problème, il y a le VAR, stop, voilà. On parle plus, le VAR a raison, le VAR est justice.
Alors,
le VAR
dit, la vérité. Décision était bonne, ce qu'il y a c'est que ça a duré longtemps.
Le VAR est vérité, le VAR est omniscient.
Voilà.
Le VAR est Dieu.
Le VAR.
Voilà. Moi je suis pas d'accord avec le VAR, mais on s'en fout.
Bah non, pourquoi?
Bah non, bah je sais pas moi, parce que le VAR est la vérité absolue, mais moi je suis pas d'accord, moi je vois pas en quoi il y a faute.
On en revient à la décision d'un arbitre, celui du VAR.
Un peu au final. Enfin bref, non, ce qui est emmerdant avec Saint-Étienne, je sais pas, mais quand je vois leur équipe, je me dis qu'on va se régaler, je me dis que ça va jouer, et à chaque fois on est un peu déçus quand même.
J'ai
l'impression qu'ils n'arrivent pas à trouver l'alchimie entre les joueurs.
Moi, inversement, je pense qu'Amiens leur a posé pas mal de problèmes aussi. C'est peut-être préoccupant, tu vas me dire, que Amiens pose des problèmes à Saint-Étienne.
Il faut bien quand même, voilà.
Préoccupant pour Saint-Étienne, mais c'est à relever pour Amiens aussi, je trouve.
Mais Saint-Étienne.
J'ai bien aimé, notamment, la première période d'Amiens.
Je m'attends à mieux, je sais pas. Moi, j'en faisais une sorte d'outsider pour le top 5. Ce sera peut-être le cas, mais
il met du temps
à démarrer, quoi. Voilà.
Messieurs, c'est déjà bientôt terminé.
C'est pour ça qu'on est allé vite, mon vieux.
J'en profite également pour vous dire que mercredi, il y a la reprise de Transversal, hein, à 20h45 sur RMC Sport.
Là, j'ai entendu parler d'un gros reportage sur le
coup. Oui, un inside à l'Olympique.
Pour la première, oui. Pionnet. Mais autant te dire que ça va être toute l'année. Non, mais je t'annonce, les deux premières.
Que sur Lyon, toute l'année. Que des gros reportages.
Les deux premières saisons de Transversal, bon, tu vois, c'était bien. Ensuite, encore mieux. Ils ont progressé. Bah alors là, on est en Ligue des Champions direct.
Alors il y a une
émission plus longue avec de l'omnisport, des reportages de ouf, genre d'émission où d'un coup on a eu beaucoup plus de moyens.
Tiens, et raconte tout ce qu'il y a d'ailleurs du coup. Il y a l'inside autour donc du retour de l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions.
Le gros inside sur Lyon, retour en Ligue des Champions, 52 minutes. L'émission est beaucoup plus longue que l'année dernière. Voilà.
C'est pas la même heure aussi d'ailleurs.
Je parlais d'omnisport. Il y a un reportage sur Pierre Ambroise-Boss. Plein de choses vraiment intéressantes. Et j'ai dit pour Lucas Hernandez.
Oui, grosse interview, avec Lucas Hernandez également.
En même temps, t'as le sommaire sous les yeux, donc.
Oui, mais c'est ton émission, donc t'as le droit de faire le teasing. Excuse-moi, c'est toi qui l'incarne.
Il est là et puis il vérifie.
On l'autorise à...
Oui, alors, attends, est-ce que t'as bien dit les mots comme ça sur ma feuille?
On l'autorise à prendre des notes quand même, parce qu'il a du mal à prendre l'heure de l'émission.
Et maintenant, non, un truc important, c'est que maintenant, c'est une mercredi soir.
Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure aussi.
Ah, c'est peut-être plus important, parce que si tout le monde attend au mauvais moment.
Sauf les soirs où il n'y a pas Ligue des Champions, évidemment. Parce que quand il y a Ligue des Champions.
C'est quoi, on va arrêter
là? Il y a Ligue des Champions, quoi, forcément.
Et ce sera décalé.
Alors, sachez qu'il y a un sondage qui a été lancé sur le compte Twitter de l'After. Quelle barre préférez-vous? Alors, celle de Mitroglou ou la mienne? Je me prends une branlée, sachez-le. Vous avez vraiment des goûts.
Franchement, c'est nul, parce que la tienne est beaucoup mieux.
Merci, Daniel.
Ouais, mais il y a plus de fans de Marseille et Mitroglou.
Merci à toutes et à tous.
Il y a plus de fans de Mitroglou que Nico Villas. Ah, je suis pas sûr, ça. Excuse-moi, je suis pas sûr.
Oh, je pense quand même.
Merci à tous. Qui est fan de Mitroglou?
Il y a des mecs qui sont fans de moi, surtout. C'est ça la question. Faut être débile.
Forcément, 3-4 sont fans de toi.
En même temps, moi, j'aurais voté pour toi. J'avais pas vu le.
Allez, bonne soirée, à demain. 21h l'after demain. Merci. Ciao.
RMC, le football show, l'after foot.